Bonjour.
Le début des travaux, ça va se faire quand finalement? Parce qu'on en parle depuis un bon moment, puis enfin,
Oui.
on s'attendait à ce que ça débloque prochainement. Est-ce que vous avez du nouveau pour nous?
Ben oui. C'est un peu comme les 12 travaux d'Hercule, hein? Quand on fait une innovation, que ce soit sociale, technologique ou autre, on passe à travers toutes sortes d'étapes et d'acceptation. Actuellement, on est en train de réaliser le 11e travail d'Hercule.
OK, donc là, on approche de la fin, là.
Oui, exact. Le 12e, ça va être la réalisation des travaux. Donc, le 11e, c'est attacher les derniers fils, donc avec les partenaires financiers. Et dans les derniers mois, vous avez dit, effectivement, on a un peu moins entendu parler du projet parce qu'on avait un défi d'infrastructure. Comment réussir à rester dans quelque chose d'abordable, mais qui va être pérenne, qui va durer longtemps,
ouais,
qui va bien servir les membres qui vont y habiter.
Excellent. Puis là, à ce jour, en ce 15 avril 2019, combien de mini-maisons ont été vendues pour le petit quartier à Fleurimont?
Oui, il y en a plus d'une cinquantaine sur 73 qui ont été vendues, donc ou on peut dire pré-vendues, parce que les offres d'achat vont se finaliser. Dans le fond, les gens sont devenus membres de la coopérative Le Petit Quartier,
okay,
et ils ont signé une réservation pour leur maison avec un premier montant, qui était un premier engagement. Mais dans les prochaines semaines et les prochains mois, là, tout, ils vont signer l'offre d'achat officielle et mettre la mise de fonds du premier 5 %.
OK, mais le montant qu'ils ont versé, c'est un pourcentage par rapport à la valeur de la maison, comme un dépôt?
Jusqu'à maintenant, oui, ben c'est les membres fondateurs qui avaient déterminé un montant qui était un premier engagement financier, qui était bien sûr gelé et qui leur appartient, qui leur était remis si jamais ils quittaient en cours de route, là.
OK, mais est-ce que c'est un montant important? On parle de milliers de dollars ou c'était plus symbolique?
Non, c'est plus symbolique que ça, là. C'est un premier 500 $ puis un 500 $ pour devenir membre de la coop.
Okay.
Deux montants qui sont remboursés si la personne quitte. Mais dans les prochaines semaines, en mai ou juin prochain, là, pour finaliser le tout, là, ça va être une offre d'achat avec un 5 % en fonction de la valeur. Vous disiez tantôt aussi que ça faisait un certain temps. Le projet, outre dans la tête de certaines personnes de faire un petit quartier, hein, des petites maisons comme ça, c'était dans la tête de plusieurs depuis un bon bout de temps, dont Richard Pinchot, qui était l'instigateur. Mais officiellement, on s'est lancé à fond au printemps 2016. Donc, ça fait 3 ans. Et un projet de développement, d'habitude, c'est entre 3 et 5 ans à traverser toutes les étapes. Et là, on arrive à notre 3 ans. Vous demandiez aussi, les travaux commencent quand? Bien, on prévoit les commencer là, à la fin du printemps, début de l'été. Là. Si tous les derniers fils s'attachent bien, c'est ce qui semble être
okay,
à l'horizon.
Mais c'est très bientôt, là, ça va commencer prochainement.
Oui, exact. Donc, nous, pour se rendre, mettons que si on reprend l'image des 12 travaux d'Hercule ou d'Astérix, là, tout dépendant des références de tout un chacun. Le 11e travail est vraiment d'attacher les derniers fils et tout ça devrait s'attacher d'ici juin. Pour la suite, on part dans les travaux cet été, des travaux d'infrastructure qui vont prendre assurément 2 à 3 mois. Hein. Habituellement, les projets de développement, on va faire quelques maisons, puis on les vend, les gens les occupent et on continue comme ça. Nous, on fait les 73 pratiquement en même temps, là.
Mais financièrement, c'est une structure qui est plus complexe. C'est pas comme si un promoteur arrivait dans un quartier, comme on a vu souvent, qui bâtit presque, bon, le quartier, achète les terrains, puis en fait, au fur et à mesure, puis là, ça se vend. Là, c'est différent. Là, vous êtes une coopérative d'habitation. J'imagine que c'est plus complexe là, dans la structure.
Ben oui et non, je vous dirais oui, on rattache un certain nombre de choses où on sort des sentiers battus, on innove, ça c'est vrai. Fait que quand on innove, ben il faut expliquer ce que c'est. Les gens comprennent vite la différence, ils voient les avantages, hein, c'est un projet sans but lucratif dans lequel il y a une sélection aussi, on cherche des gens qui ont le goût d'un projet collectif là. C'est un milieu de vie aussi là où on sent confiance, en sécurité, mais on développe aussi beaucoup d'entraide et de partage, hein. Pour 73 petites maisons avec leur terrain. Il n'y aura pas 73 tondeuses. Là. On va mettre en commun un certain nombre de choses. Mais chacun garde sa maison, son milieu de vie. Sauf qu'après, quand il sort dehors, bien, il y a un projet collectif qui est sans précédent au Canada. Là.
Et combien ça peut coûter, une mini-maison moyenne? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs modèles, mais le coût moyen, là, quelqu'un qui est intéressé par le projet, qui dit « j'aimerais ça aller à Fleurimont, avoir une petite maison, puis vraiment avoir un mode de vie, disons, plus simple, plus simpliste », combien il faut débourser pour avoir une mini-maison?
C'est bon. Dans les maisons, si on juste compare par rapport au marché, on n'a plus grand-chose en bas de 250 000 actuellement. Là. Terrain, taxes et tout inclus. Nous, on arrive pour une maison de base, je vous dirais, là, que tout, là, ce qu'il faut là, pour bien se loger, incluant un centre communautaire qui est propre à la coop, une piscine, une grande piscine pour tous, un jardin communautaire et une série de sentiers à travers tout notre projet. On est aux environs de 100, à partir de 145 000 dans
okay.
ces eaux-là.
Quand même, donc, c'est plus cher que je pensais. Je vais être honnête avec vous parce que je m'attendais à ce que ce soit en deçà de ça. Quoique les maisons sont peut-être plus grandes que je pense, remarquez. Là, c'est combien la superficie d'une maison moyenne?
C'est ça. Les gens ont une image d'une maison sur roue, d'une petite maison là, vraiment
mais
pas
comme
grosse.
Comme on voit à la télévision, là, oui, on nous vend ça. Là, c'est des 200-300 pieds carrés, pas plus d'habitude. Là.
Oui, c'est ça. Bien, en fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle l'empattement au sol, donc notre fondation au sol. Elle est petite. C'est un empattement qui peut correspondre à ce qu'est une mini-maison. Par contre, on a un deuxième étage, ce qui fait que rapidement, on dépasse le 700 pieds carrés okay. et rapidement, on peut aller jusqu'à 900 quelques pieds carrés, ce qui a plus les allures d'une petite maison que d'une mini, ouais. Une micro ou une mini-maison. Et où c'est intéressant, vous dites, je pensais que c'était moins cher. Vous avez raison, la maison comme telle est moins chère que 145 000. Par contre, ajouter les infrastructures qu'on y fait, mm-hmm. plus la maison, le bâtiment commun, communautaire, la piscine, etc. Donc, tout ça est inclus dans le prix. Il n'y a pas le coût du terrain et les taxes qui s'ajoutent. Okay.
Parfait.
Tout est inclus à ça.
Sauf qu'il y a des services, comme vous m'avez énuméré. Est-ce qu'il y a des frais rattachés à ça de manière mensuelle, comme un condo? Il y a des frais de condo à chaque mois pour l'entretien, puis s'occuper de tout ça afin que ça reste beau.
Oui, exact. Entretenir au quotidien et prévoir aussi l'avenir. On est autour d'une centaine de dollars, là, les deux inclus. Là.
Okay.
Pourquoi? Parce que quand je vous parlais de sélection, c'est qu'on demande aux gens, il faut être intéressé à s'impliquer aussi. Là. Donc, l'organisation, l'administration, mais aussi l'entretien, tout ça, on veut que les gens s'y impliquent. Mais ça, d'habitude, les gens qui s'achètent une maison avec un terrain, ils l'entretiennent et ils en prennent soin.
Ouais.
C'est le même principe. La différence, c'est que là, il y a plusieurs terrains et espaces qui sont communs auxquels les gens faut que s'impliquent aussi. Là.
Il y a des corvées, par exemple, qui seront organisées telle journée. Tout le monde va ramasser les petites roches qui traînent sur les terrains. On va faire du nettoyage. C'est un peu comme ça. C'est ça le principe de la coop.
Oui, c'est le principe, puis c'est toujours en fonction de ses capacités, hein, bien sûr. Quelqu'un qui a des problèmes de dos, on ne va pas l'envoyer là, mais il va être très bon pour faire d'autres types de tâches qui sont moins physiques. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, puis c'est intéressant, dans le mythe, les gens pensent que parce qu'on demande aux gens de s'impliquer, ils vont en faire plus, mais peut-être que vous avez ou avez déjà eu une maison, mais rapidement, en nombre d'heures, quand tu es tout seul ou en couple, à tout faire dans sa maison.
C'est juste ça.
Tu pourras en faire à chaque fin de semaine,
c'est
tout
sûr.
Le temps.
Ça finit jamais, ça. Sauf que là, ce que je me demandais, par exemple, je ne vais pas vous interrompre, M. Brien.
Non, ça va, allez-y.
Mais parce qu'on parle du quartier, puis du mode de vie mini-maison qui vient avec, justement, ces propriétés-là. Oui. C'est toujours sur la rue des Sommets. Il y aura une seule rue où les voitures peuvent voyager ou ça a changé par rapport au projet initial?
C'est ça. Bien, le principe, là, ça vient, entre autres, de Pocket Neighborhood. Là. Désolé mon anglais, là, mais c'est des grappes de maisons, si on veut. Ça, aux États-Unis, ça s'est développé dans les 10-15 dernières années, même plus. Là, mais le principe, c'est que tu as une rue municipale et après, tu as des rues privées qui t'amènent, dans le fond, à tous les stationnements. Les stationnements sont communs et après, tu marches sur sentier jusqu'à ta maison. Donc, pour ceux qui veulent être plus proches de leur maison du stationnement, c'est possible. Et il y en a qui veulent être plus loin, c'est possible aussi. Fait que tout le monde y trouve son compte en termes de distance par rapport aux autos. Mais effectivement, la rue des Sommeils, qui existe présentement, va être complétée et va rejoindre la rue du Plessis. Et à travers ça, il va y avoir plusieurs grappes de maisons, mais aussi de zones de stationnement, qui va donner une toute autre ambiance là, que ce qu'on est habitué de connaître.
Mais là, les voitures ne seront pas nécessairement les bienvenues dans le petit quartier, si je comprends bien. C'est un peu comme le plateau Mont-Royal, mais version Fleurimont, c'est ça?
Non, en fait, c'est bon. Mais non, les autos sont les bienvenues jusqu'au stationnement. À partir de là, il y a un bout qui se fait à pied. Mais je te dirais, entre ton stationnement et ta maison, si tu vas avoir une distance ou un effort qui peut être équivalent à quand tu es dans un bloc de plusieurs étages, puis il faut que tu te rendes jusqu'au dernier étage.
Ouais.
Mais sauf que là, on est dans un paysage assez extraordinaire. Là. Tu sais, on parlait du coût. Dans le coût, il y a l'infrastructure aussi, hein, que Duc, égout, tout ça va être inclus. On a des fils électriques qui sont enfouis aussi. Ça fait partie de nouvelles exigences de la ville, là, autant que faire se peut que l'électricité soit enfouie. Puis vous comprenez qu'avoir mis des fils électriques quand c'est des petites maisons avec des petits terrains comme ça, là, ça aurait fait pas mal de filage.
Oui, mais je trouve ça quand même fascinant comme projet. J'aime l'idée au départ. C'est un petit peu axé sur ce que l'Oregon fait, probablement que vous êtes au courant un peu de la mouvance dans ce secteur-là aux États-Unis, dans le Nord-Ouest, où ça devient très vert, où on y va en simplicité. Habituellement, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'en milieu urbain, trouve ça particulier parce que les mini-maisons qu'on voit souvent, c'est des très petites maisons dans un bois où il y a un secteur ou en tout cas, il y a un encadrement qui est très, très naturel. Là, on demeure quand même à Fleurimont, là, même si bon, les fils oui. sont enfouis, ça reste quand même Fleurimont dans le sens que c'est ça, on est en ville.
Ben oui, mais c'est des vraies maisons aussi. Tu sais, quand on est, par exemple, dans l'Est, on est sur Galt, on arrive, on a les petites maisons des vétérans. C'est pas des grandes maisons non plus. Puis tu sais, il y a certains quartiers, on peut voir même des nouveaux développements, des semi-détachés. Quand tu rentres dans un semi-détaché, là, t'as un petit terrain, puis t'as ton c'est pas nécessairement grand non plus. Imagine, au lieu d'être dans un semi-détaché, t'es dans ta maison et t'as ton terrain. Même l'espace qui est à peu près 18 pieds entre les maisons est plus grande que certains espaces qu'on a au centre-ville entre nos maisons. Fait qu'il faut vraiment figurer, c'est des vraies maisons, c'est un vrai quartier, mais en plus petit. Et surtout, il y a une vie collective et coopérative qui est là. Donc, quand tu viens vivre dans ce projet-là, il se passe autre chose. C'est un milieu de vie même avant la maison. Puis, ce que tu faisais référence dans l'Ouest des États-Unis, tu as bien raison, il y a un courant puis une vague, là, entre autres avec les crises économiques, les gens en ont perdu beaucoup ou avaient plus accès à une maison, une propriété, et c'est en train de se développer. Mais on n'est pas dans la micro ou la mini-mini maison. Là. On est vraiment dans quelque chose là, qui est plus 16 pieds par 30 pieds. Bon, tu vas me dire, ça fait 480 pieds de plancher, mais après ça, en ayant un deuxième...
Ben oui, c'est ça double.
Effectivement, c'est un projet fascinant. C'est le premier du genre en milieu urbain au Canada. Et les partenaires nous disent, certains partenaires financiers vont nous dire, ben, vous êtes... En termes de grandeur sur d'empattement, une mini-maison, mais en termes de grandeur de surface habitable, vous êtes dans une petite maison.
Ah oui.
Mais même si on dit ça, quelqu'un qui est dans un bungalow peut cumuler jusqu'à 200 ou 300 000 objets partout. Là. Tu sais, tous les objets, les ustensiles, les vieilles balles de golf, les ci, les ça. 300 000 objets, c'est sûr que ça ne rentre pas dans une petite maison. Ça, c'est certain.
Non, il va falloir faire un tri avant de déménager. Une vente de garage s'impose.
C'est ça. Il faut avoir le goût d'une vie coop, une vie collective, mais il faut aussi avoir le goût de faire un travail de minimalisme qui est sérieux et réel.
En terminant, M. Briand, il y avait une certaine opposition par rapport au projet. Au départ, il y a des gens qui croyaient que la valeur de leur maison allait diminuer ou qu'il y aurait des problèmes. Est-ce que vous croyez que ces craintes-là qui étaient émises au départ sont maintenant atténuées avec ce que vous nous avez dit puis avec l'enthousiasme là, que vous constatez là, par rapport aux futures ventes qui vont se faire?
C'est sûr que c'est un changement dans ce secteur-là. Tout changement amène des réactions et des craintes. Moi, je voudrais avoir des voisins comme ça parce qu'ils continuent à se former, à s'informer. C'est des gens qui veulent vivre un bon voisinage. Donc, on a essayé d'atténuer le plus possible les craintes. Il y a eu des spécialistes qui ont dit non, ça ne fait pas perdre de valeur aux maisons. Au contraire, actuellement, la rue Duplessis est en train de se municipaliser encore plus. Donc, il va avoir plus de valeur aux maisons. C'est sûr que quand tu étais habitué en arrière qu'il n'y avait pas de développement, une maison, ben, c'est un changement. Mais on essaie, par les arbres, par les du visuel et du naturel, d'être le plus intéressant comme voisin. Ça, on l'a bien mentionné, puis on se voulait rassurant là-dessus.
Excellent. Ben, M. Briand, au plaisir d'avoir de vos nouvelles quand vous aurez du nouveau pour le début des travaux, là, le 12e travaux qui s'en vient bientôt.
Oui,
là.
Exact. Avec grand plaisir.
On serait très heureux d'en apprendre plus. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée. C'est Guillaume Briand, directeur général de la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie.